Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour et bienvenue pour la rentrée d'Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Nous allons évidemment vous proposer un tour d'horizon de cette fin d'été très particulière pour l'Union européenne. Saisons touristiques impactées par le Covid, vaccination à marche forcée mais polémique en Europe. Et puis diplomatie et politique migratoire hésitante. Autant de thèmes que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité dont le parti n'est pas vraiment représenté par l'exécutif européen, en tout cas pas au niveau de la Commission européenne. Nous accueillons une eurodéputée, Manon Aubry, coprésidente de la gauche au Parlement.
Bonjour, merci.
Vous avez été élue en 2019 à la tête de la liste de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Votre liste termine en cinquième position devant celle des socialistes. Votre formation obtient donc 6 des 79 sièges réservés aux Français. Vous coprésidez avec un Allemand votre groupe politique au Parlement, ce qui fait de vous la seule Française, et vous le soulignez, la plus jeune à un poste de présidence. Avant d'embrasser une carrière politique, vous mettiez déjà vos convictions au diapason de votre emploi. Vous avez été la porte-parole de l'ONG Oxfam, où vous avez beaucoup travaillé sur les questions des inégalités et de l'évasion fiscale.
Alors, évidemment, rentrée oblige, on est obligé de vous poser la traditionnelle question. Vous avez passé de bonnes vacances en cet été européen un peu étrange quand même.
Oui, j'ai passé de bonnes vacances, qui fait un peu le lien avec un de mes dadas, qui est la question fiscale, parce que j'ai la particularité d'avoir une famille qui vient de Bonifacio, le sud de la Corse, et je suis bercée depuis mon enfance à ces yachts immatriculés dans les paradis fiscaux, qui sont venus, eux, en grand nombre dans le port de Bonifacio, comme quoi c'est pas la crise pour tout le monde, et on pourrait se demander s'il y a de l'argent à aller chercher, s'il se trouve pas dans ces fameux paradis fiscaux, parce que j'ai compté pas un seul yacht enregistré en France cette année encore.
Alors, certains pays comme la France ont imposé pour cet été ce pass sanitaire. Ça a accéléré la vaccination, mais cela a aussi nourri le mécontentement d'une partie des réfractaires avec des manifestations chaque samedi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces manifestants ou bien est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision qui a été prise par le président Macron ?
Moi et d'ailleurs tous mes camarades qui ont mené la bataille à l'Assemblée nationale, depuis le début, on est opposés au pass sanitaire. D'ailleurs, je me souviens, parce que ça a été débattu à l'échelon européen avant l'échelon français, hein, d'ailleurs. Et on nous avait dit à l'époque, c'est juste un outil pour passer les frontières. De ça, on est passé à un outil pour, quand vous sortez chez vous dans la rue et quand vous allez au bar, au resto ou au cinéma, où on vous le demande. Au début, on nous avait dit c'était temporaire, pas plus tard qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron annonce sa prolongation. Et c'est un outil inédit en matière de restriction des libertés, notamment quand on menace à des gens de faire perdre leur emploi à cause de ce pass sanitaire. Et je veux être très claire, je pense qu'il y a d'autres outils pour faciliter la vaccination qui est indispensable pour sortir de la crise. Cet outil, c'est la sécurité sociale. Cet outil, c'est créer la confiance. Et qu'en fait, le pass sanitaire, tout ce qu'il fait, c'est diviser notre société plutôt que essayer d'aller convaincre un à un celles et ceux, et notamment les personnes les plus à risque, qui doivent se faire vacciner. Je constate d'ailleurs que le pass sanitaire n'a pas beaucoup fait progresser le taux de vaccination dans les publics les plus à risque. Je pense aux plus de 75 ans, plus de 80 ans, où il y a encore 15% de gens qui ne sont pas vaccinés. Et cette espèce d'épée Damoclès qu'on leur a mis sur la tête ne fonctionne en réalité
pas. En attendant, Manon Aubry, quand même, la France a rattrapé en quelques semaines son retard de vaccination et se classe avec 70% parmi les pays du monde les plus vaccinés. L'Union européenne aussi a atteint 70% des adultes vaccinés, ce qui était son objectif. C'est plutôt un bilan flatteur, vous ne trouvez pas, pour Paris et Bruxelles, qui ont beaucoup été critiqués au début de cette pandémie ?
Bon, d'abord, c'est un bilan tardif, critiqué. Je faisais partie au Parlement européen de celles qui demandaient des comptes à la Commission européenne, puisque quand même, il faut s'en souvenir, au début, ça a été un vrai fiasco dans la gestion notamment des contrats avec les laboratoires pharmaceutiques. Je rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en septembre 2021, nous n'avons toujours pas accès à l'intégralité des contrats qui ont été signés avec les laboratoires pharmaceutiques. Nous savons que les derniers contrats qui ont été signés, notamment avec Pfizer, ont vu le prix de la dose augmenter. Donc, ce sont des deniers publics.
Mais on a tous eu accès au vaccin gratuitement en Europe.
On a tous eu accès au vaccin gratuitement, sans pour autant qu'on puisse demander des comptes aux laboratoires pharmaceutiques. Donc, c'est là aussi toute la difficulté pour moi, c'est que ça a été payé avec de l'argent public. sans aucune transparence sur les vaccins et sans à aucun moment qu'on demande aux laboratoires pharmaceutiques de rendre dans l'espace public la recette de production des vaccins, ce qu'on appelle la levée des brevets. Ça fait plus d'un an que nous nous battons pour la levée des brevets, notamment pour que le monde entier puisse avoir accès aux vaccins. Je rappelle, 80% des vaccins qui sont allés vers les pays les plus riches et le taux de vaccination, par exemple, en Afrique, qui n'est que de 5%. Les pays riches se sont arrogés les vaccins parce que la Commission européenne et les États européens ont protégé les intérêts des laboratoires pharmaceutiques qui, au passage, ont engrangé de grands bénéfices.
Et aujourd'hui, il y a un débat. On parle de la troisième dose. Elle est proposée déjà aux plus fragiles, aux plus âgés. Est-ce que vous êtes favorable à cette troisième dose en France, ou bien est-ce que vous pensez qu'il faudrait plutôt envoyer les doses dont on dispose vers les pays qui en manquent, évidemment, les pays du Sud?
Bon, d'abord, c'est pas moi de juger, je suis pas médecin. Je regarde ce que dit, par exemple, l'autorité européenne du médicament, qui reste encore, j'ai vu notamment une publication aujourd'hui assez prudente sur l'utilisation de cette troisième dose, qui pour le moment le recommande dans des cas très spécifiques. Bon, je crois qu'il faut, d'un point de vue médical, avoir les recommandations, mais je vais être très claire. On ne se sortira pas de cette crise si la planète entière n'a pas accès en même temps au vaccin. Sinon, le vaccin mute, revient comme un boomerang sous une autre forme, sur lequel, et on l'a vu notamment pour le variant Delta, le vaccin est moins efficace. Donc, de nouveau, j'en appelle à la Commission européenne, à Emmanuel Macron, qui ont toujours des beaux discours pour dire il faut vacciner, et qui derrière continuent à défendre les intérêts des laboratoires pharmaceutiques en refusant à l'Organisation mondiale du commerce de lever les brevets. Et ça doit être la priorité politique. Et d'ailleurs, à notre initiative, on a adopté une résolution au Parlement européen en la matière. On attend encore que la Commission européenne en tire les leçons et suive ses recommandations politiques.
L'Europe est quand même la région du monde qui exporte ou qui envoie le plus de vaccins dans le Sud par rapport aux États-Unis.
Alors d'abord, c'est l'initiative COVAX dont vous parlez. Dans le cadre de cette initiative, l'Union européenne n'a pas tenu toutes ses promesses et n'a pas envoyé l'ensemble des millions de doses qu'elle a promis. Première chose. Et deuxième chose, si elle veut cohérente, alors qu'elle arrête de défendre les intérêts des laboratoires pharmaceutiques et qu'on lève enfin les brevets pour faire du vaccin un bien commun de l'humanité, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de s'y opposer, si ce n'est que de protéger les profits des Big Pharma.
Alors, cette rentrée, toujours sous cette menace du Covid, eh bien, elle passe aussi par le télétravail dans les entreprises. Alors, il est plus obligatoire pour des raisons sanitaires, mais les entreprises souvent le maintiennent pour respecter parfois le vœu de leurs salariés. Ils ont découvert cette nouvelle organisation et ils ont envie de poursuivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous y êtes favorable? Et vous-même, en tant que parlementaire, vous avez dû aussi travailler dans ces conditions. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apprécié? Est-ce que on peut faire de la politique de cette façon?
Bon, c'est vrai que ça a été particulier pour le Parlement européen. En plus, nous, on a la difficulté de travailler dans une vingtaine de langues différentes au niveau européen. Des outils ont dû être créés. J'espère que la démocratie européenne apprendra aussi de ces conditions de travail et que parfois, pas forcément utile de venir de l'autre bout de l'Union européenne pour une réunion de 2 heures et qu'en effet, on peut la faire à distance. Le télétravail, je pense, doit être élargi, c'est un droit. Et en même temps, il faut être absolument vigilant à conserver des bonnes conditions de travail pour les salariés. Je pense à toutes ces familles et en particulier aux femmes. Même maintenant que les enfants reprennent le chemin de l'école, c'est pas facile de travailler chez soi. Et je pense que le droit au télétravail doit venir avec le droit à la déconnexion et avec des conditions de travail. Donc il y a un équilibre à trouver. Et de ce point de vue-là, je regrette que le gouvernement se soit un peu débarrassé de sa responsabilité en disant « Bon, on suspend les règles de télétravail obligatoires, maintenant chacun fait ce qu'il veut au niveau de chaque entreprise. » Moi, je serais plutôt favorable à des règles qui sont organisées à l'échelon national, à s'assurer qu'on puisse, quand c'est possible, sans que ça devienne un fardeau, parce que je crois qu'on a toutes et tous connu un moment où on tournait en rond chez nous, dans des petits appartements, et forcément, ce n'est pas les conditions idéales de travail.
Alors, si on regarde un peu les indicateurs, l'économie européenne est en train de se rétablir. Elle bénéficie du grand plan de relance à 750 milliards d'euros de l'Union européenne. La France, d'ailleurs, est troisième bénéficiaire. Mais certains partis estiment qu'on perd au change. On décrypte tout de suite les chiffres et le vrai du faux avec Céline Schmitt.
La France devra-t-elle débourser 67 milliards d'euros pour rembourser le plan de relance européen, alors qu'elle ne recevra que 40 milliards? Évoqué par Arnaud Montebourg dans une tribune publiée l'année dernière, ce chiffre est abondamment repris depuis, parfois sans précaution. L'UE a prévu une enveloppe de 390 milliards d'euros de subventions pour son plan de relance, dont 40 milliards pour la France. Chaque pays membre devra participer à son remboursement selon sa contribution au budget de l'UE, une part qui s'élève à un peu plus de 17% pour la France actuellement, soit près de 67 milliards d'euros. Mais il s'agit là du scénario du pire. L'UE s'est d'abord engagée à tenter de régler elle-même la facture. Comment ? En générant de nouveaux revenus. D'ici 2023, trois premiers nouveaux leviers sont envisagés. Une taxe sur les géants du numérique, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, un système d'échange de quotas de CO2. Mais l'UE se heurte pour l'instant aux réticences de certains États membres, mais aussi des États-Unis. Ces derniers soutiennent déjà un projet de taxe mondiale sur les multinationales et craignent une double taxation de leurs entreprises. Si l'UE ne parvient pas à financer l'entièreté de la facture, les États membres devront donc se partager le reste. Mais là encore, la part de la France n'est pas figée. Ces 17% seront revus dans 7 ans et pourraient bien évoluer à la baisse si les rabais négociés par certains pays ne sont pas reconduits à l'identique. Enfin, il reste encore du temps. Le début du remboursement n'est prévu qu'en 2028 pour une durée de 30 ans. Affaire à suivre.
Voilà, vous voyez Manon Ombré, on fait un peu de pédagogie aussi sur nos antennes. L'extrême droite, mais aussi des personnalités comme Arnaud de Montebourg qui monte au créneau et dénonce un jeu de dupes. Est-ce que c'est votre conviction pour ce plan de relance ?
Ce que vous avez très bien montré dans ce petit reportage, c'est que en effet, on va recevoir 40 milliards d'euros de la part de l'Union européenne, mais qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ils vont être remboursés. La taxe plastique, c'est 3 milliards d'euros par an à l'échelle de toute l'Union européenne. La taxe GAFAM, vous l'avez dit, elle est en train d'être enterrée. La taxe carbone aux frontières, elle n'a pas encore vu le jour et elle sera aussi dans des recettes de l'ordre de quelques milliards d'euros. Vous le voyez, on est très loin des 750 milliards d'euros qui sont nécessaires et pourtant, nous, on avait des propositions. On l'avait dit très clairement et vous voyez, souvent, on nous traite d'eurosceptiques. Mais nous, on était prêts à avoir ce cadre de collecte financier au niveau européen avec une taxe sur les transactions financières, avec une refonte de l'impôt sur les sociétés pour couper l'herbe sous le pied aux entreprises multinationales qui utilisent des paradis fiscaux européens comme l'Irlande ou le Luxembourg. Et toutes ces propositions ont été balayées d'un revers de la main. Je rajouterais par exemple aussi une taxation exceptionnelle. Ceux qui ont profité de la crise, qui ont fait davantage de bénéfices, je pense à certaines entreprises du CAC 40, pourraient contribuer de manière exceptionnelle, comme on l'a fait dans l'histoire au moment de Grande Guerre. Tiens, Emmanuel Macron disait lui-même qu'on était en guerre. Et aujourd'hui, c'est clair qu'on n'a pas les moyens de rembourser. Donc oui, il y a des chances que ça nous coûte, in fine, relativement cher.
Donc ça va être aussi un débat, bien sûr, entre les 27, assez important, parce qu'il faut quand même préciser que les ressources financières communes, c'est nouveau pour l'Union européenne. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. On va parler, si vous voulez bien, maintenant de cette présidence slovène, qui a démarré cet été avec une déclaration du Premier ministre, le populiste Janez Janša, qui a réagi à la situation en Afghanistan. Et à ce titre, il a tweeté quelque chose qui a choqué. L'Union européenne n'ouvrira aucun couloir de migration depuis l'Afghanistan. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de s'exprimer et sur le fond, votre avis sur la migration ?
Janez Janša, il est assez symptomatique de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'Union européenne, qu'il faut prendre très au sérieux, qui est un péril de l'extrême droite. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de cette présidence slovène de l'Union européenne. Vous avez un petit Trump en puissance qui prend aussi modèle sur Viktor Orban en Hongrie, qui s'attaque systématiquement à l'indépendance de la justice, à la pluralité des médias, aux partis d'opposition dont nos camarades de Levica payent un prix fort en Slovénie et qui s'attaque, à mon sens, à tous les fondamentaux de l'état de droit, de la démocratie sur laquelle l'Union européenne est censée se bâtir. Donc oui, sa présidence aujourd'hui est dangereuse. Et sur l'immigration, il est représentatif de la pensée classique de l'extrême droite qui va agiter les peurs en vous disant qu'on va être submergé par une horde de migrants. Bon, je rappelle que 85% des gens qui ont fui l'Afghanistan sont pour le moment autour, dans les états alentours de l'Afghanistan. Et ce, aussi précisément, parce que l'Union européenne ne tient pas sa responsabilité en matière d'accueil digne des migrants et sous-traite à des États extérieurs, alors que le droit international en la matière et les conventions de Genève sont très claires. On a des gens qui fuient l'horreur, qui fuient la guerre, et ces gens-là, on parle d'une infime minorité à l'échelon de l'Union européenne. Oui, nous avons un devoir d'humanité à leur égard.
Parce que ceux qui vont succéder aux Slovènes, ce sont les Français qui vont prendre en janvier prochain la présidence tournante de l'Union européenne pour 6 mois. Et comme par hasard, Emmanuel Macron sera aussi en campagne électorale, forcément, puisque les élections ont lieu en avril. Donc ce sera une étrange, finalement, présidence française. Est-ce qu'on risque de faire des étincelles ?
Oui, ce sera très particulier. D'ailleurs, ça s'est déjà passé dans l'histoire où des présidences ont été décalées quand il y a eu des élections. C'est pas le cas cette fois-ci. Et très clairement, on le voit déjà dans cette préparation de la présidence, Emmanuel Macron va se servir de la présidence française du Conseil comme un outil de campagne. Plutôt que d'être prisonnier des termes du débat que va poser Emmanuel Macron, qui consistera à dire « vous êtes pour l'Union européenne, vous votez pour moi, vous êtes contre, vous votez pour Marine Le Pen ». Moi, je pense qu'il faut le poser en d'autres termes. J'en ai marre du pour ou anti-Union européenne. La question qui nous est posée, c'est on arrive au pouvoir en avril 2022, puisqu'il restera encore 2 mois de présidence. Comment on exerce le pouvoir dans le cadre européen qui nous est donné ? Notamment en identifiant les incompatibilités éventuelles du droit européen avec notre programme. Nous, dans notre cas, si on veut, par exemple, privilégier dans les appels d'offres publics des productions locales ou biologiques, c'est contradictoire avec le droit de la concurrence. Ou renationaliser le fret, c'est contradictoire avec le droit de la concurrence. Si on veut des grands plans d'investissement écologiques et sociaux, c'est contradictoire avec la règle des 3% de déficit. Et donc, j'espère que, dans le cadre de la présidence française et de ces élections présidentielles, on va pouvoir avoir un débat serein sur comment on lève ces blocages posés au niveau européen pour véritablement réaliser un programme de progrès social et écologique. En tout cas, c'est notre proposition.
Alors Manon Ombry, pour une fois, vous réjouissez d'une décision d'Emmanuel Macron de conserver cette présidence.
J'ai pointé son utilisation politique. Maintenant, ayons un débat serein sur cette question.
D'accord. Dernière question pour terminer. Avant l'élection française, il y a une autre élection très importante. Elle se déroulera à la fin du mois en Allemagne. Angela Merkel s'en va après 16 ans. Et on voit aujourd'hui que le candidat social-démocrate Olaf Scholz a le vent en poupe. Évidemment, en Allemagne, on fait des coalitions. Et on parle même d'une éventuelle coalition à trois, les sociodémocrates, les écolos et la gauche, le parti de la gauche radicale, Die Linke. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que c'est envisageable d'après vous ? Et puis peut-être petit clin d'œil pour la France, est-ce que vous pouvez imaginer, vous, la France insoumise, entrer dans un gouvernement de coalition avec les écolos français et avec, Emmanuel Macron ou un candidat socialiste qui n'est pas encore défini ?
Le régime politique n'a rien à voir, ça vous a pas échappé, entre l'Allemagne et la France. Et la France, on a une toute puissance du monarque républicain sous la Ve République. C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut s'en débarrasser, soit dit en passant. Mais vous avez raison, les élections allemandes, elles sont capitales. Je vous le disais tout à l'heure, à mon sens, on est un peu à la croisée des chemins pour la construction européenne. On le sait, moi je le vois à l'intérieur maintenant, j'ai envie de dire que l'Allemagne a un rôle important dans la construction européenne. Et la chute de la CDU veut quand même dire quelque chose. La CDU, qui est la droite conservatrice allemande, une rigidité absolue sur la règle des 3% de déficit et des 60% de dette, sur la règle des aides d'État, du droit à la concurrence. Donc ça, c'est un modèle qui est posé et qui est en déliquescence. Et pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, Olaf Scholz, pour être honnête, je porte pas très haut dans mon cœur parce que c'est notamment lui, quand il était ministre des Finances, qui a bloqué un certain nombre de réformes ambitieuses en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Et quand je travaillais à Oxfam, dont vous parliez, je me suis plusieurs fois cognée contre ce ministre des Finances. Maintenant, le rôle qui va être le nôtre, et à travers nos partenaires de Die Linke en Allemagne, va être justement d'opérer un changement de braquet, un changement de boussole, pour poser justement cette question de manière aussi assez réaliste de comment on fait maintenant, comment on tourne le dos à l'ordolibéralisme qui a été celui qui a été construit par l'Allemagne ces dernières années. Et en tout cas, moi, je vois quand même plutôt d'un bon œil la chute de la CDU et j'espère que ça inspirera d'autres dans d'autres pays de l'Union européenne.
Merci à vous d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Manon Ombry, merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale.
Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité.
Cool, cool, cool. Couleur tropicale.